Le journal Kevin Dufraîche, bonjour.
Bonjour à tous.
Et d'abord, 11 secrétaires d'État nommés hier soir, le gouvernement Castex, désormais bouclé, a noté le retour d'un secrétariat d'État à la ruralité et 6 nouveaux entrants, dont 2 issus du Modem, toutes les deux d'ailleurs rattachées au ministre de l'Éducation, de la Jeunesse et des Sports, Jean-Michel Blanquer, qui sera notre invité dans un quart d'heure à 7h45, dans 3 quarts d'heure à 7h45. Dans le reste de l'actualité, Kevin ?
Bercy veut donner de l'air aux petites et moyennes entreprises. Le ministère de l'économie propose aux PME d'étaler le paiement de leurs charges pour éviter les faillites et les retards de paiement aux fournisseurs. Dans ce journal encore, les députés islamistes pour simplifier la création de chaînes de télé et de radio en Tunisie. Plus besoin d'afficher ses financeurs, on va avoir une radio de Daesh, s'inquiète le président du syndicat des journalistes. Et puis elle était l'une des dernières figures de l'âge d'or d'Hollywood, l'actrice américaine Olivia de Havilland est morte hier à 104 ans.
À 8h20 dans le grand entretien, le professeur gynécologue obstétricien Israël Nizan, le projet de loi bioéthique, la PMA pour toutes, revient en deuxième lecture à l'Assemblée. Première réforme sociétale du quinquennat et plus de 2000 amendements. On attend vos questions, chers auditeurs, au 01 45 24 7000.
France Inter.
L'équipe est donc au complet.
Le commentaire simple de Jean Castex hier sur Twitter, après la révélation de la liste des 11 secrétaires d'État qui rejoignent les 31 ministres nommés il y a 3 semaines. 31 plus 11, ça fait donc 42 membres au sein de ce nouveau gouvernement. Mais cette fois, pas vraiment d'effet nouveauté, comme avec les nominations d'Éric Dupond-Moretti et Roselyne Bachelot, non. Là, Yael Gauz, c'est surtout la continuité qui saute aux yeux.
Sur les 11, 5 étaient déjà en poste sous Édouard Philippe. Continuité sur le handicap avec Sophie Cluzel, sur l'enfance avec Adrien Taquet, sur les retraites aussi, preuve que la réforme continue, Laurent Pietraszewski est toujours en poste. Idem pour Cédric O, qui rempile au numérique malgré les débuts difficiles de Stop Covid. Quant à Clément Beaune, il était déjà le Sherpa d'Emmanuel Macron sur l'Europe. La nouveauté, Jean Castex la puise dans les rangs de la majorité et fait rattrapage alors que certains députés commençaient à douter. 3 nouveaux entrants côté marcheur, Olivia Grégoire à Bercy, Bérangère Abba à la biodiversité et Joël Giraud à la ruralité. La France des territoires a désormais un interlocuteur direct. 3 marcheurs plus 2 députés Modem, Sarah El Haïry et Nathalie Elimas, jeunesse et éducation prioritaire, pour renforcer le pôle de Jean-Michel Blanquer. Gouvernement de mission, nous dit Matignon, mais pas vraiment resserré. Il faut remonter à Juppé 95 pour retrouver une équipe aussi pléthorique. Plus de femmes que d'hommes, c'est à souligner. 42 membres, mais sans compter le futur haut commissaire au plan, sans doute François Bayrou, attendu pour la rentrée.
Yael Gauz a noté la fin de parcours gouvernemental pour Brune Poirson. La désormais ex-secrétaire d'État à la transition écologique va donc redevenir députée du Vaucluse. Fin de mission également pour Christelle Dubeau. L'élu de Gironde était jusqu'ici secrétaire d'État auprès du ministre de la Santé. Le gouvernement qui, chacun des 600 prochains jours, devra être utile au pays, dit le Premier ministre. Ça passe aujourd'hui par la deuxième lecture à l'Assemblée nationale de la loi bioéthique juste avant les vacances, en mode express, 25 heures de débat seulement et pas de vote solennel. La mesure phare de cette loi, c'est toujours l'ouverture de la PMA, la procréation médicalement assistée à toutes les femmes. Explication avec Daniel Messager.
Avec cette loi, la procréation médicalement assistée pourra s'ouvrir à toutes les femmes en couple avec une femme ou célibataire. Finit la notion d'infertilité qui, en théorie, justifiait un recours médical. De même pour la congélation des ovocytes, évolution sociétale puisque les femmes ont des enfants plus tard, mais l'horloge biologique, elle, reste figée. La loi prévoit d'ailleurs d'informer sur la fertilité. Autre grande avancée, l'accès aux origines. Les enfants nés de dons pourront avoir accès à leur majorité à des informations soit non identifiantes comme la couleur des yeux, soit l'identité, même s'ils le souhaitent. Les donneurs de sperme devront accepter ces conditions. Reste qu'après le vote, la mise en pratique ne sera pas simple. Les banques de sperme seront-elles en capacité de répondre aux demandes ? Aujourd'hui, le délai d'attente est déjà de 1 an. Même incertitude sur les demandes de conservation de vos sites. Selon la loi, seuls les établissements publics ou à but non lucratif devraient être autorisés à la pratiquer. Cette loi sera revue tous les 5 ans et non plus 7, car la société évolue et de plus en plus vite.
Daniel Messager, que contient la future loi bioéthique ? C'est un dossier à lire sur le site et l'application de France Inter. La loi bioéthique devrait être votée voter sans problème à l'Assemblée nationale, mais son parcours n'est pas terminé puisqu'elle sera de nouveau examinée au Sénat à l'automne.
Bercy veut mettre fin au cercle vicieux des retards de paiement.
La crise a asséché les trésoreries des PME qui souvent attendent d'être payées par d'autres entreprises elles-mêmes en difficulté. Et pour tenter de limiter autant que possible ces retards et délais de paiement, les petites et moyennes entreprises vont pouvoir bénéficier d'un étalement de leurs charges sur une période allant de 1 à 3 ans, de quoi redonner un peu d'air, Laurent Kramer.
Depuis le début de la crise sanitaire, Bercy redoute des faillites en cascade de petites entreprises et commerces à court de trésorerie et victimes de retards de paiement. Les volumes d'impayés sont aujourd'hui particulièrement élevés, en dessous de 10 000 euros. Les fournisseurs peinent à se faire payer. L'accumulation de retards de paiement entre petits commerces et indépendants est sur le point de devenir critique, s'inquiète Marc Sanchez du syndicat des indépendants.
Il faut savoir qu'en termes de délai de paiement, la moyenne c'est aux alentours de 60 à 90 jours. On est plus dans les 120, 150 aujourd'hui. On parle beaucoup des territoires. Les entreprises sont liées les unes aux autres. Quand vous avez des entreprises, que vous avez un imprimeur, il travaille souvent avec un commerçant, il peut travailler avec un boulanger pour éditer des flyers, etc., etc. À partir de là, quand il y en a un qui a un problème, ben, forcément, il ressurgit sur les autres. Et après, on rentre dans un cercle vicieux duquel il va être très difficile de sortir.
Pour reconstituer de la trésorerie, relancer cette chaîne de paiement, le gouvernement ouvre les vannes à des reports de charges et propose un étalement simplifié de la dette sociale et fiscale jusqu'à 3 années pour les petites entreprises à court de trésorerie.
Laurent Kramer, le préfet du Morbihan, invite l'ensemble des habitants de Quiberon à se faire dépister sans délai. 54 cas de Covid-19 ont été diagnostiqués ces derniers jours dans la commune bretonne de 5000 habitants, très touristique. Un foyer de contamination dû, selon les autorités sanitaires, principalement à un public jeunes qui participent à de nombreux rassemblements. Conséquence, l'accès aux plages et aux parcs de la ville est interdit la nuit de 21h à 7h du matin. En Tunisie, le nouveau Premier ministre Hichem Mechichi a un mois pour former son gouvernement. Pas facile de trouver une majorité dans une assemblée fragmentée composée d'une myriade de partis. Une assemblée qui en attendant travaille malgré tout en ce moment sur un projet de loi polémique. Les partis islamistes veulent réformer l'audiovisuel en autorisant la création de chaînes de télévision et de radio via une simple déclaration sans aucun contrôle. Au sein de la société civile, certains craignent les abus et voient le projet de loi comme une menace pour la démocratie. À Tunis, la correspondance de Maureen Mercier.
Neji Bouri, président du syndicat des journalistes, fait les comptes ulcérés.
Malheureusement, ça peut passer.
Le projet de loi a déjà été adopté par la commission et oui, selon lui, cet amendement peut trouver une majorité au Parlement. Aujourd'hui, pour ouvrir une chaîne de télévision, il faut obtenir une autorisation, être transparent sur les financements. Mais demain, si ce projet passe...
On peut avoir une radio de Daesh. C'est ça le risque. On peut avoir une chaîne de télévision d'Al-Qaïda. Puisqu'on n'a pas besoin de donner nos ressources de financement, on n'a pas besoin d'avoir une licence ou bien une autorisation pour lancer cette chaîne. On laisse la porte ouverte pour les terroristes. Et c'est grave, pas seulement pour la démocratie tunisienne, mais pour la paix mondiale, bien sûr.
Neji Bouri et ses collègues assurent qu'ils combattront de toute leur force ce projet, d'autant que depuis quelques années, ils voient leur travail se compliquer avec des menaces des islamistes de plus en plus fréquentes.
Comme journaliste, je touche quotidiennement cette menace. Nous sommes libres, mais nous sommes libres jusqu'à quand ?
Avant la révolution, la menace pour les journalistes venait du pouvoir. Aujourd'hui, selon le président du syndicat des journalistes, elle vient des islamistes. Ce sera encore plus le cas si cette loi passe. Tunis, Maureen Mercier, France Inter.
Un mort dans une manifestation contre la pénurie d'essence dans l'est du Venezuela. Hier, l'homme a été tué lors de violents affrontements entre les manifestants et l'armée. Des automobilistes attendaient de pouvoir faire le plein depuis 17 jours. Les heurts ont éclaté lorsque l'armée a donné son feu vert pour accéder aux pompes à des véhicules qui n'étaient pas dans la file d'attente. Le Venezuela, qui dispose pourtant des plus grandes réserves de pétrole du monde, connaît une pénurie sans précédent depuis des mois en cause de la détérioration des infrastructures. Les raffineries du pays ne traitent plus que 100 000 barils par jour contre 1 million auparavant.
7h09, France Inter, la suite du journal avec ses feux de poubelle, ses rodéos urbains, les incivilités qui se multiplient à Lyon et dans sa banlieue.
Plusieurs maires de la métropole avaient rendez-vous en fin de semaine dernière pour tenter de trouver des solutions. Comment occuper les jeunes qui ne partent pas en vacances pendant l'été ? Voilà la question centrale. Et parmi les réponses figure l'opération Collèges ouverts, à laquelle participent 8 établissements de Lyon et sa banlieue. lieu. 200 collégiens sont accueillis chaque jour pour des activités sportives et culturelles. À Vaux-en-Velin, le reportage d'Alexandre Berthaud.
D'habitude, au mois de juillet, Nesrine est bien loin du collège Henri Barbus de Vaux-en-Velin.
Au Maroc, on s'amuse, on va à la plage, on mange dans les restaurants, on grossit aussi, on prend des calories.
Mais Covid-19 ne rime ni avec plage, ni avec calories, encore moins avec Maroc. Nesrine est bloquée chez elle. Et voilà la liste des activités proposées.
Bah rien, je surveille ma petite sœur et voilà, je reste à la maison.
Heureusement, ses parents ont entendu parler de l'opération Collège Ouvert, des activités gratuites, repas du midi inclus, organisées par la Fédération Léo Lagrange et la Métropole de Lyon, propriétaire des collèges. Mathias Collomb de la Fédération Léo Lagrange Centre-Est.
À la suite du déconfinement, beaucoup de jeunes n'étaient pas revenus dans les collèges, n'avaient pas recontacté avec leur vie sociale, etc. Et on s'est surtout rendu compte qu'il y aurait beaucoup de jeunes qui ne pourraient pas partir en vacances ou qui ne pourraient pas bénéficier de place dans les centres de loisirs.
Par exemple, aujourd'hui, on l'entend, ces musiques. Walid, le directeur adjoint sur le collège Henri Barbus.
Les jeunes ont besoin de s'évader, ont besoin vraiment de faire des activités plutôt que rester chez eux à rien faire, assis sur le canapé ou dehors avec les plus grands.
La fédération Léo Lagrange espère pérenniser cette opération les étés à venir. Lyon, Alexandre Berthaud, France Inter.
Et la rentrée, les vacances et la rentrée, il en sera question avec l'invité de France Inter à 7h45, le ministre de l'Éducation Jean-Michel Blanquer. En football, et de neuf pour la Juventus Turin, le club de Cristiano Ronaldo a été sacré champion d'Italie pour la 9e fois d'affilée hier soir, 36e fois de son histoire. En Angleterre, Chelsea s'est qualifié pour la prochaine Ligue des Champions après sa victoire sur Wolverhampton hier, grâce notamment à un but d'Olivier Giroud. Enfin, 50 films, 2 Oscars et un rôle culte, celui de Mélanie dans Autant en emporte le vent. L'actrice américaine Olivia de Havilland, figure de l'âge d'or d'Hollywood, est morte hier à Paris. Elle avait 104 ans. Retour sur un demi-siècle de carrière hors norme avec Mathieu Culon.
You're extremely foolish. It might have cost you your life.
En 1935, Olivia de Havilland donne la réplique à un jeune acteur, Errol Flynn, dans Captain Blood. L'acteur australien n'a pas encore sa petite moustache qui le rendra célèbre. Olivia de Havilland semble, elle, une actrice déjà accomplie. Leurs carrières ne cesseront de se croiser. Robin des Bois, en Technicolor, sera un immense succès.
I suppose you and your band of cutthroats intend to send this treasure to Richard. You wouldn't dream of keeping it yourselves.
C'est contre la volonté de Warner que Selznick impose Olivia de Havilland au casting d'Autant en emporte le vent. Elle sera nommée pour l'Oscar du meilleur second rôle. Le film, lui, repartira avec 10 statuettes.
But Aunt Judy, you know Scarlett came here only to help raise money for the cause. It was splendid of her to make the sacrifice.
En près de 50 films, Olivia de Havilland impose un style très européen, cultive une amitié avec Bette Davis, mais surtout n'hésitera pas à être l'une des premières femmes à casser la logique des studios hollywoodiens dans un procès retentissant. Olivia de Havilland, qui est morte hier à Paris, sa ville de cœur, et qui laisse derrière elle une œuvre qui pourrait résumer à elle seule tout l'âge d'or d'Hollywood.
We must starve our sight from lovers' food.
La voix d'Olivia de Havilland dans « On entend autant, on emporte le vent » de Victor Fleming en 1939.
Et que si on s'en souvient, la légendaire Vivian Leigh en Scarlett O'Hara, c'était le journal de Kevin Dufresne.